En séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le 23 juin 2008, François Host, professeur ordinaire aux facultés universitaires Saint-Louis, a prononcé une communication intitulée « Le droit, miroir de la littérature » devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques. Né aux États-Unis, le courant « droit et littérature » se développe aujourd'hui sur le continent européen, renouvelant à la fois les études littéraires et la philosophie du droit. Quels bénéfices les juristes tirent de cette fréquentation de la littérature ? Retrouvons François Host en séance.
Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, académiciennes, c'est évidemment un très grand honneur pour moi d'être convié à prendre la parole parmi vous, cette auguste assemblée. Et je remercie tout particulièrement le Président François Terré de son invitation. Cette causerie est aussi pour moi l'occasion de vous apporter le salut confraternel de l'Académie royale des sciences, lettres et beaux-arts de Belgique, à laquelle j'ai l'honneur de participer, de prendre part depuis 4 ans. Le sujet de ma causerie d'aujourd'hui porte sur les liens, les relations qui se tissent entre le droit et la littérature. Et, avec un clin d'œil au passage, j'ai intitulé cette réflexion « Droit et littérature, des liaisons dangereuses ?» Point d'interrogation, évidemment. Alors, il se fait que j'avais préparé une première conférence pour laquelle vous avez un texte écrit qui a été communiqué. Mais dans l'intervalle, j'ai pris connaissance, par les miracles de l'Internet, de la conférence de M. Alain Gérard Slama et de la discussion très intéressante qui a suivi. Je me suis rendu compte, j'ai pu lire vos questions, que certains points étaient peut-être restés dans l'ombre, plus particulièrement celui-ci, la question des liens, mais aussi des différences qui se tissent finalement entre ces deux domaines, ces deux formes d'imaginaire qu'on voudrait rapprocher, le droit et la littérature. Aussi bien ai-je décidé, un peu en dernière minute, finalement, de concentrer mes réflexions d'aujourd'hui exclusivement sur ce thème, laissant peut-être à la discussion de tout à l'heure l'occasion d'approfondir d'autres questions. Mais donc, finalement, qu'est-ce qui distingue, qu'est-ce qui relie aussi, sinon il n'y aurait pas de raison de les associer, ces deux formes de l'imaginaire. Et je mettrai ces réflexions sous les auspices de Platon, parce que Platon a plusieurs reprises dans son œuvre met en scène précisément un dialogue imaginaire entre les juristes d'un côté, les gardiens de la cité idéale, dont ils dressent les plans, et les tragédiens et les poètes de l'autre. Alors c'est une affaire qui commence mal, sous la forme d'un bannissement. Ils sont ramenés à la frontière, si j'ose dire, au motif que ces tragédiens et ces poètes ne sont pas des gens sérieux, au motif que leur art est corrupteur, qu'ils mélangent le vrai et le faux, pire encore, le bien et le mal, et que finalement, la littérature a commerce avec les parties basses de l'âme, celles du sensible et du plaisir. Ou alors, reprenant le thème dans des ouvrages ultérieurs, dans les lois, Platon décide que finalement, enfin ses légistes décident que les littéraires peuvent entrer dans la cité, mais si j'ose dire, à condition de montrer patte blanche, c'est-à-dire sous la pire des conditions que l'on peut imposer à un homme de lettres, c'est la censure. Il fallait que leurs œuvres soient déclarées avouables et bonnes à être entendues par le public. Donc c'est une affaire qui commence mal, exclusion, pas de rapport entre droit et littérature. Et pourtant, coup de théâtre, c'est le cas de le dire, si on poursuit quelque peu la lecture, les choses s'inversent et voilà que nos légistes s'adressent cette fois avec respect à ces hommes de lettres comme aux meilleurs des étrangers et cette fois leur font un aveu d'importance, c'est que eux-mêmes, les constituants, les codificateurs, les légistes, eux-mêmes sont précisément attelés à la rédaction d'une tragédie, d'une œuvre littéraire la meilleure et la plus excellente qui soit. Autrement dit, on comprend peut-être mieux l'exclusion de tout à l'heure, qui procède peut-être moins d'une dévalorisation que d'une sorte de jalousie professionnelle, les uns et les autres travaillant sur le même terrain de l'imaginaire politique. Voilà sans doute des auspices éminents, mais qui renforcent notre perplexité sur cette ambivalence des liens qui se tissent entre droit et littérature. Cette réflexion, nous devrons la mener, je dirais, contre Platon lorsqu'il s'agit d'exclure, ou pire encore, de censurer les littéraires. En revanche, c'est résolument avec lui et derrière lui qu'il faut réfléchir lorsque l'on pense, ce qui est mon opinion, que au fondement de nos constitutions, de nos traités, de nos codes, préside un imaginaire fondateur, un roman politique auquel la littérature contribue grandement. Mais donc, il faut se garder d'assimilation hâtive, notamment comme elles sont trop souvent pratiquées dans le courant Law and Literature aux États-Unis, où l'on finit par présenter le droit comme une pièce de littérature. Donc, il faut ne pas aller trop vite en besogne, mesurer les identités sans doute, mais également les différences. Pour tout dire, c'est d'une dialectique, me semble-t-il, qu'il faut parler lorsque l'on traite des rapports entre droit et littérature. Je commencerai donc par les différences et je pourrais tout résumer en une formule qui est un jeu de mots, comme si, comme ça. Le littéraire dit « c'est comme si », il était une fois, le juriste dit « c'est comme ça » et pas autrement. C'est un jeu de mots, c'est évidemment un peu réducteur, mais ça fera comprendre les quatre différences que je voudrais décliner entre ces deux registres. Première différence, alors que la littérature libère des possibles, le droit codifie la réalité. Le droit l'institue dans un réseau de qualifications convenues. Il enserre ce réel mouvant, complexe, multiple, chatoyant. Il l'enserre dans des statuts avec leurs droits et leurs devoirs. S'il s'avère, par exemple, qu'un jeune homme nommé Oreste est le meurtrier de sa mère Clytemnestre, eh bien, pour le juriste, le scénario ne fait pas de doute. Il doit être remis aux mains de sa famille, de la famille de la victime, pour que la vengeance lignagère, voulue du reste par les dieux, personnifiée par les Erénies, pour que cette justice privée puisse s'exécuter. Tel était du moins l'état du droit au 5e siècle avant Jésus-Christ, à Athènes, au moment où un certain Échille s'empare de ce fait divers et lui donne un tout autre scénario. Voilà précisément la contribution de la littérature à la découverte d'un nouvel imaginaire juridique. Imaginez qu'un autre scénario puisse être mis en place dès lors qu'un crime de sang, un matricide, a été commis. Un tribunal va être mis en place, l'aréopage. Des arguments rationnels seront échangés, basés sur des preuves factuelles. On entre là dans un autre registre de rationalité. Tout ça se conclut par un vote et, coup de théâtre, Oreste est acquitté pour la première fois. C'est peut-être un des moments fondateurs du droit, de la civilisation du droit, pour la première fois, un terme est mis au cycle permanent de la violence et de la vengeance en cascade. Voilà donc le rôle, me semble, une des premières différences de la littérature et du droit. Le droit codifie le réel, la littérature libère des possibles. Pour ce faire, la littérature utilise souvent l'arme du faible, le fou du roi, c'est-à-dire le comique et la dérision. Et ça nous donne, par exemple, une des premières œuvres en langue française, la farce de Maître Patelin. Ça nous donne aussi le procès de Kafka, qui, en dépit de ses pages noires, est aussi, à certains égards, une œuvre d'un comique très particulier, disons, du registre du grotesque. Ça nous donne tout un ensemble de chefs-d'œuvre. Je pense encore à la cruche cassée du romantique allemand von Kleist, où un juge, le juge Adam, est à son cœur défendant, contraint d'instruire un procès, son propre procès, ce qui nous fait beaucoup rire parce que nous savons, nous, que le coupable, c'est lui. Dans cette fonction critique de la littérature à l'égard du droit, ce n'est pas nécessairement le trop de droit qui est incriminé, ou le trop peu de droit, pardon, l'absence de droit, l'injustice, l'imposture. Parfois, c'est le trop de droit. Ils sont alors brocardés de ces personnages fous de droit, comme le Shylock de Shakespeare dans Marchand de Venise, qui va réclamer le paiement de sa dette en s'attachant au formalisme cambière alors même qu'on lui propose plus de 400 fois le prix convenu. Non, c'est exactement les termes de la lettre de change, c'est-à-dire la fameuse livre de chair prélevée sur le corps de son débiteur. C'est cela et pas autre chose qu'il va réclamer. C'est aussi le personnage de César Birotteau, de Balzac par exemple, qui va passer le restant de sa vie dans la misère noire partagée par sa femme et sa fille pour honorer jusqu'au dernier centime ses créanciers, ne comprenant pas que la faillite est une institution ingénieuse destinée notamment à ne pas payer ou ne pas payer entièrement cette dette. Les personnages fous de droit, illustrant en fond ce adage paradoxal qui m'avait beaucoup intrigué sur les bancs de la faculté de droit, « Summumius summa ignoria ». Le comble du droit, le droit porté à l'extrême, eh bien, se retourne peut-être en son contraire, comme beaucoup de choses du reste. Le comble du droit, c'est peut-être le comble du tort et du préjudice. Je remarque aussi que dans cette fonction critique, la littérature, et c'est peut-être inhabituel de le souligner, peut témoigner de trésors de ce qu'on appellerait aujourd'hui de sciences sociales, de sciences humaines, et faire preuve d'un savoir de terrain dont ne disposent pas nécessairement les juristes de l'époque. Je parlais de César Birotteau tout à l'heure. Eh bien, je parle sous le contrôle du président Théré, je tiens ce César Birotteau pour un chef-d'œuvre de sociologie juridique, dans la mesure où c'est une critique tout à fait pertinente, une évaluation législative, dirait-on aujourd'hui, de la loi française sur les faillites de 1807, qui était une sorte de catastrophe, et qui, du reste, a été abrogé peu de temps après la parution de l'ouvrage de Balzac. Je pense encore au grand chef-d'œuvre russe de Tolstoï et de Dostoïevski, qui nous parle, parce qu'ils avaient connu cette condition, qui nous parle du bagne de Sibérie, et qui révèle, me semble-t-il, des trésors de sciences sociales à un moment où les facultés de criminologie bruissaient des théories, des théoriciens positivistes italiens, Ferri, Garofalo, Lombroso, théories complètement oubliées et même disqualifiées aujourd'hui, alors que le véritable savoir criminologique se trouve dans les analyses très fines de Dostoïevski ou de Tolstoï. Voilà une première différence. Seconde différence entre le droit et la littérature, c'est ça concerne cette fois-ci le rapport au temps. Et je ne vous étonnerai pas, évidemment, en disant que le droit fait vœu d'inscription dans la durée, dans la longue durée, répondant ainsi à une valeur fondamentale qui est la sécurité juridique. Autrement dit, le droit fait des choix parmi différents scénarios et entend s'y tenir. Alors que, tout à l'opposé, plutôt que de stabiliser les attentes ou de rassurer nos angoisses, tout à l'opposé, la littérature crée la surprise. Nous attendons d'elle qu'elle nous étonne, qu'elle nous dérange, qu'elle nous dépayse, qu'elle nous émerveille. Nous savons que la littérature peut se livrer, pensons à Kafka, aux variations imaginaires les plus inattendues. Comme le disait le regretté Paul Ricoeur, la littérature est un véritable laboratoire expérimental de l'humain. Elle peut se permettre des passages à la limite les plus radicaux qui vont ouvrir la porte à ce qui est peut-être à mes yeux le plus précieux, c'est sa fonction heuristique. Elle nous fait voir les choses avec d'autres yeux dès lors qu'elle nous invite à passer de l'autre côté du miroir, comme Alice par exemple. Là, je peux vraiment en témoigner. C'est un peu sur le tard que je suis venu à ce courant droit et littérature. Je croyais connaître des choses sur le droit. J'ai beaucoup appris par ce passage de l'autre côté du miroir auquel m'invitait la littérature. Par exemple, chez Kafka, tout le monde sait que s'expérimente une sorte de déconstruction de la loi et des institutions judiciaires. Mais ce n'est pas pour déboucher sur l'anomie, l'absence de loi. Ce qu'on y découvre, c'est quelque chose de bien plus dense, mais aussi de bien plus terrorisant. C'est ce que j'ai appelé, faute de mieux, la loi archaïque de nécessité, une sorte de justice immanente, où la distinction entre l'ordre des faits et l'ordre des valeurs n'est plus très claire et qui engendre une terreur absolue. C'est peut-être de cette loi archaïque de nécessité que précisément les tragiques grecs 25 siècles plus tôt, avec la figure des Érénies, entendait se détacher dans le geste civilisateur dont je parlais tout à l'heure. Voilà une découverte. Autre exemple, j'étais parti, j'avais relu le texte de la Genèse relatant le récit du Sinaï, de la donation de la loi au Sinaï, pour y trouver des exemples édifiants, précisément, de codification, d'écriture de la loi. Eh bien, en me contentant de lire ce texte, mais simplement de le lire attentivement, c'est tout autre chose qu'on y découvre. J'ose le dire, dans ce texte, on découvre peut-être le premier récit de contrat social de l'histoire, mais un vrai contrat social, une alliance en train de se faire, un peuple en train de se constituer, un peuple en train de se libérer en s'affranchissant de l'esclavage égyptien, un peuple en train de se responsabiliser en exerçant cette liberté, non pas dans le vide absolu du désert, mais en allant à la recherche de cette loi qui va nouer le lien social. Fonction heuristique de la littérature. Troisième différence fondamentale entre le droit et la littérature, elle tient cette fois-ci à la manière de traiter les individus. Je dirais que ici, le droit produit des personnes, alors que la littérature met en scène des personnages. Où est la différence ? Mais c'est probablement que la personne juridique, persona, masque de théâtre, la personne juridique, c'est le rôle stéréotypé, doté d'un statut convenu. Dans la mise en scène qu'il opère de la vie sociale, le droit durcit le trait en affublant de rôles convenus auxquels nous sommes censés nous conformer. L'idéal, par exemple, du bon père de famille, qui est sous-jacent au code civil, l'idéal du commerçant prudent et diligent, ce sont des rôles standards auxquels nous sommes appelés à nous conformer. En revanche, bien entendu, la littérature joue de l'ambivalence, de ce que j'appellerais alors ces personnages, qui sont précisément des personnages littéraires dès lors qu'ils sont doubles, multiples, complexes, évolutifs, qu'ils présentent une face d'ombre. Le docteur Faust, par exemple, qui est tantôt le pêcheur damné, tantôt l'entrepreneur prométhéen que Goethe sauvera, avec la figure du contrat qui est à la base de l'histoire, le contrat qui peut à la fois aliéner et libérer. La figure d'Antigone que nous admirons pour son courage, son héroïsme, sa sainteté, mais qui présente aussi, et c'est en cela qu'elle est notre sœur, c'est en cela qu'elle nous est proche et humaine, une Antigone qui présente également des traits incestueux et suicidaires. Robinson Crusoe, que je tiens, peut-être y revenir dans la discussion de tout à l'heure, pour un prototype juridique, le prototype juridique même de la modernité, c'est l'individualisme juridique réinventé sur la tabula rasa de l'île déserte. Robinson Crusoe, qui peut tantôt apparaître comme un naufragé névrotique, tantôt au contraire comme un solitaire triomphant. La littérature soumet ses personnages aussi à toutes sortes de métamorphoses, faut-il rappeler Kafka à cet égard. La littérature aussi ressuscite ses personnages ou les fait revenir à intervalles réguliers, Balzac encore dans sa Comédie humaine. La littérature qui peut se permettre des permutations de positions, c'est le traitement amusant auquel Michel Tournier soumet justement le mythe de Robinson Crusoe en faisant s'échanger les personnages de Robinson et de Vendredi. La littérature qui joue aussi sur les variations de grandeur des personnages qui sont tantôt surdimensionnés, tantôt sous-dimensionnés, selon le rôle qu'ils sont appelés à jouer. En termes philosophiques, on pourrait exprimer cette polarité en distinguant deux formes d'identité, à la suite de Paul Ricoeur encore, qui distinguait l'identité idem, qui répond à la question « que suis-je ?» et à laquelle on répond dans par des traits objectifs, ceux de l'état civil, j'ai tel âge, je suis de sexe masculin, de telle nationalité par exemple, un ensemble de traits objectifs extérieurs. Et puis de l'autre côté, l'identité ipsé qui répond à la question « qui suis-je ?» et qui renvoie au personnage que j'essaye d'être et qui ne correspond pas nécessairement aux traits de l'état civil ou à des contraintes extérieures. La littérature s'y emploie évidemment à jouer des jeux de miroir entre ces deux formes d'identité. quatrième différence entre le droit et la littérature. Le droit se meut dans le registre de la généralité et de l'abstraction. C'est même ce qu'on apprend aux étudiants de droit en première année. À juste titre, on leur dit que la loi est générale et abstraite. Alors que, bien entendu, la littérature se déploie dans le domaine du particulier et du concret, le domaine du singulier. J'aime bien ce mot de singulier, puisqu'il renvoie à la fois à l'idée de bizarre et l'idée de particularité. Donc, de nouveau, nous retrouvons cette idée d'un droit général et abstrait, avec ces formules magnifiques du Code civil, « Tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », article 1382 du Code civil français et belge. Et à côté de ça, la littérature nous raconte des histoires abracadabrantes tout à fait particulières, dans lesquelles pourtant, et voilà le coup de force, nous nous reconnaissons. André Gide a pu dire de Franz Kafka, qui nous raconte ces histoires tout à fait particulières d'un individu qui se réveille dans la peau, si j'ose dire, dans la carapace d'un cancrelat un beau matin. André Gide a pu dire comment ne pas se dire sans cesse « cet homme traqué, c'est moi ». Là aussi, on peut généraliser du point de vue philosophique. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup préoccupé. C'est une véritable révolution copernicienne. Du point de vue philosophique, on peut dire que au fond, la littérature explore l'universel par le biais du particulier ou par le biais du singulier. Moi, j'ai été formé dans des moules de pensée juridiques et donc j'ai été habitué à poser d'abord l'universel et à ne m'intéresser au particulier que si et dans la mesure où il se rangeait bien sagement dans le cadre fourni par la catégorie générale. Eh bien, voilà qu'on nous invite à penser ici autrement, peut-être. Le particulier est-il l'occasion d'enrichir, d'élargir, d'étoffer, d'inventer, pourquoi pas, une nouvelle forme d'universel ? C'est le jugement réfléchissant de Kant. Il me reste, si j'ai bien suivi la montre, 10 à 15 minutes, c'est bien ce dont j'aurai besoin pour explorer l'autre versant de cette réflexion, c'est-à-dire les points communs entre le droit et la littérature, sinon nous ne comprendrions pas la jalousie professionnelle des légistes de Platon de tout à l'heure, et sinon on ne comprendrait pas non plus la copule E qui relie droit et littérature. Nous pourrions nous séparer ici en nous disant que droit et littérature sont deux domaines très intéressants, mais que décidément ils n'ont rien à se dire, et j'aurais évidemment manqué mon propos, puisque je suis aussi tout à fait convaincu qu'ils sont amenés à se croiser, et précisément des moments importants. Mon argumentation va consister ici à jouer à front renversé, si j'ose dire, et à soutenir que si, bien entendu, c'est ce que je disais tout à l'heure, le droit travaille plutôt du côté des formes instituées, alors que la littérature se fait entendre du côté des forces instituantes, je veux dire du mouvement, de la vie, des forces sociales en mouvement, eh bien il n'en va pas nécessairement toujours ainsi, et qu'on peut parfaitement imaginer d'inverser les positions. Donc cela implique d'argumenter sur les deux fronts, d'abord sur le terrain du droit. Les juristes savent bien, comme ils sont les gardiens du temple, ils le savent peut-être mieux que les laïcs de l'extérieur, les juristes savent bien que derrière ce fleuve apparemment tranquille du droit, des constitutions, bouillonnent les forces vives de la vie sociale, que le droit, que la loi n'est jamais que la résultante, fragile et éphémère, toujours soumise à interprétation. La loi n'est jamais que la résultante de forces sociales en conflit, d'idées de droit, pour parler comme Georges Burdeau, d'idées de droit en conflit. À certains moments, comme les coups géologiques qui apparaissent à la surface suite à des grands tremblements, ce roman politique, cet imaginaire politique apparaît plus clairement en surface. Je pense par exemple au préambule constitutionnel, je pense par exemple à ces textes chargés d'émotion et de rhétorique qui précèdent les grands traités fondamentaux ou les grandes déclarations de droits de l'homme qui nous parlent en 1789 à Paris, aussi bien qu'en 1948 à New York, qui nous parle toujours de l'oubli des droits de l'homme. Donc on nous raconte une histoire. C'est parce qu'on avait oublié ces droits fondamentaux qu'on en est arrivé là. Et c'est parce qu'on ne veut plus de cette histoire-là qu'on réaffirme les valeurs fondamentales sur lesquelles le régime est appelé à s'édifier. Donc, roman politique sur le plan du droit public. Mais il en va tout autant à une échelle micro, si j'ose dire, à une échelle quotidienne, dans nos prétoires, au tribunal, où s'affrontent ces récits, ces intrigues que les gens se font à eux-mêmes. Et on peut dire que, d'une certaine façon, la décision du juge est un mini-récit à mi-chemin entre l'histoire parajudiciaire que les parties auraient bien voulu se raconter à elles-mêmes et le scénario officiel représenté par le code. Et bien souvent, ce récit judiciaire est l'antichambre d'une refonte de la loi, le banc d'essai, le laboratoire expérimental d'un droit qui est en réalité toujours en mouvement. À l'inverse, je plaide maintenant sur l'autre volet, il faut montrer que la littérature est peut-être aussi à son heure du côté de ce que j'ai appelé les formes instituées. On peut le montrer sur différents plans. Tout d'abord, au plan politique, sans s'engager nécessairement sur le terrain, encore que ce serait intéressant, de la responsabilité politique de l'écrivain, on peut montrer qu'il y a des moments dans l'histoire où la littérature joue de toute évidence un rôle politique. Je pense par exemple à la tragédie grecque, qui était politique à tous égards. D'abord parce qu'elle correspondait aux fêtes de Dionysos, à un congé auquel tous les citoyens, dont profitaient tous les citoyens athéniens, ils avaient l'obligation d'assister à cette espèce de grand messe civique qui était les représentations tragiques. Du reste, souvent, ils passaient de l'autre côté de la scène et par centaines, ils participaient au chœur tragique. Donc, c'est une sorte de miroir que la cité se tendait à elle-même, d'autant plus que les thèmes traités dans la tragédie sont très souvent des questions politiques que les Athéniens se posaient à eux-mêmes à un moment où ils faisaient cette expérience inouïe, inédite à l'échelle de l'histoire. C'est quelque chose sans anachronisme comme l'invention de la démocratie. Ça pose des tas de questions inédites. Par exemple, où passe la limite du permis et de l'interdit? Qu'est-ce qui est encore du ressort du religieux? C'est la question d'Antigone. Qu'est-ce qui est encore du ressort du religieux? Qu'est-ce qui est désormais du ressort de l'État? Ce sont, nous en convenons, des questions fondamentales qui sont traitées par ce registre éminemment politique qu'est la tragédie. Le récit biblique aussi a joué pour l'histoire du peuple juif le rôle, on sait bien, c'est le peuple du livre, le rôle vraiment de ciment national. Les exemples sont innombrables. Parfois, la politique s'entend dans un sens plus partisan, plus ponctuel. Je pense à Louis XIV qui commandait à Racine en 1667 une pièce de théâtre destinée à brocarder ses magistrats qui ne voulaient pas de son code Louis, qu'il avait fait adopter l'année précédente et qui entendait modifier profondément le cours de la jurisprudence. Semble-t-il, les magistrats se faisaient tirer l'oreille et Louis XIV demande à Racine de décrire en quelques semaines cette pièce donc connue sous le nom des plaideurs, qui est du reste une sorte de reprise des guêpes d'Aristophane. Deuxième illustration du fait que la littérature peut se situer sur le terrain des formes instituées, c'est le domaine du style. Alors, je sais bien que le style, c'est l'homme ou la femme. Je sais bien qu'une grande œuvre littéraire se marque précisément par sa capacité de rupture par rapport au genre convenu, par rapport au style. Bien entendu, on ne fait pas de la poésie de la même façon avant et après Mallarmé ou Rimbaud. Néanmoins, nous les comprenons, aussi novateurs soient-ils. Il y a une sorte de fil rouge à ne pas dépasser, sous peine de tomber dans la folie. Et certains ont dépassé ce fil rouge. Je pense à Antonin Artaud, par exemple. Il y a un moment où on ne se comprend plus. Autrement dit, et c'est une pensée très profonde que je rappelle, c'est une pensée de Paul Valéry, si nul n'est censé ignorer la loi, il est peut-être plus important encore de rappeler que nul n'est censé ignorer le langage. Le langage qui est la première des institutions. Et bien donc, quelle que soit la volonté de déformaliser les conventions, le style, les genres convenus, il y a une limite à ne pas dépasser. Donc, il y a aussi, d'une certaine manière, une certaine codification du langage, de la communication à laquelle se plie l'homme de lettres. Troisième pierre de touche de mon argumentation, c'est le rapport à la morale. Alors ici aussi, je n'ai pas la partie facile parce qu'il n'y a rien de pire, en effet, qu'une littérature moralisante, prêchi-prêcha, et très souvent, au contraire, la bonne littérature dénonce nos tartufferies, notre bonne conscience, nos impostures morales. Et donc, généralement, la littérature exerce une fonction critique à l'égard des valeurs dominantes. Mais réfléchissons et reconnaissons-le, cette critique elle-même, très souvent, est nourrie par un idéal supérieur, finalement. La littérature nous rappelle à nos valeurs fondamentales. Un nom qu'il faut sans doute citer ici, c'est celui de Camus, qui a travaillé toute sa vie sur des thèmes relatifs à la justice, qui était très sévère à l'égard de la justice instituée, institutionnelle de son pays, mais c'était bien entendu en vue de promouvoir ou de rappeler les exigences de la justice avec un grand J, la vertu morale. Donc là aussi, on ne peut pas nier une portée éthique à la littérature. Enfin, dernier point de chute, avant un mot de conclusion, et j'espère ainsi rester oui, dans le délai qui m'est imparti. Dernier point de chute, c'est que de temps à autre, il y a une obligation de raconter qui est faite à la communauté. Certains textes sont destinés à être repris, à être racontés. Je pense, par exemple, puisque je parlais de la Bible, et en dehors même des questions liturgiques, situées ici sur un plan politique, il y a obligation de reprendre régulièrement ce récit qui est réellement le récit fondateur d'un peuple. À Athènes, je le disais, il y a obligation chaque année de participer aux fêtes de Dionysos et à cette cérémonie civique, la représentation des pièces tragiques. Dans un registre différent, le registre pédagogique, je peux rappeler que Jean-Jacques Rousseau, dans son grand livre de pédagogie, L'Émile, recommandait de donner à son pupille le Robinson Crusoé dont je parlais tout à l'heure. Et ce livre devait être l'unique qui allait faire son éducation et son édification, qu'il devait le relire régulièrement. Donc là, ce n'est plus la littérature qui se saisit de la norme, c'est la norme qui se saisit de la littérature. Il y a obligation de raconter. Les conditions de l'énonciation, comme on dit de façon un peu pédante, les conditions de l'énonciation rejaillissent sur l'énoncé lui-même. La reprise par la communauté du texte fait partie de l'histoire du texte lui-même. Et je dirais, pour certains chefs-d'œuvre qui s'élèvent alors à la hauteur de grands mythes fondateurs, cette obligation va plus loin encore. Il ne s'agit plus seulement de re-raconter ce texte fondateur, mais de le réécrire. Et un certain nombre des textes dont j'ai déjà parlé, je pense à l'Antigone, à Faust, à Robinson, on pourrait penser à Don Juan aussi, s'élèvent à cette nature de mythe. Ce n'est pas seulement un classique qu'on lit, on relit, c'est une histoire qui a encore un sens pour nous aujourd'hui et que chaque époque réécrit pour répondre aux questions qu'elle se pose aujourd'hui même. Tout ceci, Monsieur le Président, m'amène à une conclusion très simple en forme de dialectique, c'est-à-dire qu'au lieu d'opposer comme des chiens de faïence le droit d'un côté, la littérature de l'autre, le premier qui camperait dans sa rationalité, son impérativité, son sérieux, dont parlait Platon tout à l'heure, et puis l'autre qu'on rangerait dans le registre du frivole, du gratuit, du corrupteur peut-être, eh bien, plutôt que ces différences radicales entre ces deux domaines, plutôt aussi qu'une identification entre l'un et l'autre, mais je crois que personne n'y songe ici, plutôt que cela, c'est d'emprunt et d'interaction, d'influence mutuelle qu'il s'agit, autrement dit, de dialectique. Entre le « tu dois » ou « tu ne dois pas » des juristes et le « tout est possible » de la littérature, eh bien, les échanges, me semble-t-il, sont multiples. On pourrait encore dire les choses autrement. Sur les bancs des facultés de droit, si du moins on y parle encore quelquefois latin, on enseigne ex facto ius oritur, le droit s'origine dans le fait. Le droit s'origine dans le fait. Eh bien, au terme de cette réflexion, je serais plutôt enclin à dire ex fabula ius oritur, le droit s'origine dans la fable. Ce n'est pas contradictoire avec le premier point. Ce n'est pas contradictoire parce que des faits bruts, je ne sais pas ce que c'est, il n'y a pas de faits bruts, il n'y a que des faits interprétés, des faits racontés, des faits valorisés. Et voilà le terreau à partir duquel le droit élabore ses scénarios. Ex fabula ius oritur. Et ça me permet de conclure finalement que les littérateurs ne devraient être ni rejetés, ni soumis à censure, ni non plus comblés d'honneur, parce qu'alors ils cessent de réfléchir, mais il faudrait dire que leur trajet, je veux dire le trajet des littéraires d'un côté et ceux des juristes de l'autre, eh bien, doivent être amenés, au moins dans les moments importants de nos vies individuelles et de nos vies collectives, doivent être amenés à se croiser. Je terminerai par un dernier mot en forme de clin d'œil. Je l'emprunte au grand lexicographe auteur du Robert, enfin, animateur de cette grande entreprise qu'est le Robert, M. Alain Rey, qui disait de la langue française, avec beaucoup d'humour, qu'elle n'était ni pure ni soumise. Eh bien, je pense que la grande littérature aussi n'est ni pure ni soumise, elle est à la fois libre et engagée, et c'est en cela qu'elle intéresse les juristes. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre la communication de François Host, professeur ordinaire aux facultés universitaires Saint-Louis, intitulée « Le droit miroir de la littérature » devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques.